à Rencontre spirituelle aujourd'hui, en ce 14 février, en la fête de Saint-Valentin dont tout le monde vous parle. Quel saint populaire, mon Dieu! Je vais vous parler plutôt du père Joseph Ryszynski. Le père Joseph Ryszynski, d'origine polonaise, mais né à Angers en France, est un des personnages les plus remarquables de ce siècle. C'est un pendant, si on peut dire, de l'abbé Pierre. Il est fondateur d'ATD Carmonde, aide à toute détresse. ATD Carmonde. Le Carmonde, c'est ce monde plus que le tiers-monde, plus pauvre que le tiers-monde. Lui-même, il est d'origine de ce milieu. Très, très pauvre. Il est né dans l'extrême pauvreté. Et il a été le témoin toute sa vie des plus pauvres. Il a vécu de 1917 à 1988. Le père Joseph Ryszynski, un particulier. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je vous ai parlé de la Saint-Valentin, bien j'ai reçu plusieurs Saint-Valentin. Celui qui est le plus charmant, c'est un groupe d'élèves de l'école Louise Trichet qui me disent « Tu es quelqu'un de sensible et de généreux et tu sais comment rendre les autres heureux. » Et puis à l'intérieur, évidemment, bonne Saint-Valentin, mais je vous lis quelques petits messages. Un d'Isabelle Simard. « Ne lâchez pas, ce que vous faites est incroyable. Continuez comme ça, car bien plus d'un écoute votre belle émission radiophonique. Joyeux Saint-Valentin. » Et puis je prends le message d'Annie Cloutier. « Je vous trouve très gentil de consacrer beaucoup de temps à une merveilleuse émission telle que la vôtre. » Ses enfants ont 14-15 ans, je crois. Et puis Valérie Froment qui m'écrit « Vous apprenez des informations importantes aux jeunes de notre âge. » Et puis, Karine Nadeau qui dit « Merci pour le beau travail que vous faites pour nous. » Je suis tellement touchée par tout ça, c'est tellement beau. Annie Limoges qui dit « Merci beaucoup pour toutes vos émissions intéressantes. » Et une qui signe « José Mathieu, heureux sois-tu. Heureux sois-tu. » Que c'est gentil. Merci pour toutes ces jeunes filles, je n'ai pas tout lu. C'est vraiment charmant. Merci infiniment. Merci aussi pour les autres Saint-Valentin qui viennent de religieuses ou d'auditrices très fidèles. Alors, je vous parle donc de ce bon père Joseph que j'avais interviewé à l'émission Rencontre à la télévision. Le père Joseph Ryszynski, que l'on appelle le curé de la racaille, a fondé, il y a, je pense, environ 35 ans, ou un peu plus, une association qui a maintenant, vous savez, des ramifications dans le monde entier. Je vous ai dit, c'est Aide à toute détresse, ou ATD, Carmonde. C'est un Français d'origine polonaise, comme je vous ai dit tout à l'heure, le père Ryszynski est né dans un milieu d'extrême pauvreté, du sous-prolétariat, comme on dit, comme ceux auxquels il a consacré tous ses efforts. Lorsque je l'avais invité en studio à Radio-Canada, il était de passage à Montréal, c'était le 22 avril 1982, 6 ans avant sa mort. C'était René La Rochelle, aujourd'hui décédé, qui l'avait interviewé. Et le père Ryszynski nous avait expliqué que la misère extrême se transmet comme un héritage dont on est prisonnier, c'est ce qu'il nous disait lors de cette émission à la télévision de Radio-Canada. Et si lui-même a pu y échapper, il le doit à la chance qui lui a fait rencontrer de vrais prêtres, qui l'ont accueilli en frère et qui l'ont aidé. Des prêtres qui ont aussi soulagé profondément la détresse de sa propre mère, nous avait-il raconté, parce qu'ils avaient compris, ces prêtres-là, qu'elle avait plus besoin de sympathie et d'amour que de pain. Et il nous a raconté que lorsque ces prêtres se présentaient à la maison deux fois par année, c'était une vraie fête pour toute la famille. Vous savez, ces visites paroissiales qu'on faisait autrefois. Et c'est ainsi que le petit Joseph Ryszynski, à leur exemple, eh bien, il a voulu devenir prêtre, afin de soulager la misère des pauvres. Et il m'écrivait, quelque temps après cette entrevue, oh mon Dieu, il m'écrivait ça deux années plus tard, même plus de que ça, en 1984, à la fin de l'année, il me disait, cher ami, l'année 1985 nous donnera-t-elle encore la chance de nous rencontrer au Canada? Je l'espère de tout cœur, puisque en mai prochain, je me rends au Québec. Et il terminait en disant, si nous nous tournions plus souvent vers Dieu, Peut-être apprendrions-nous à mieux conjuguer le verbe aimer et donc à moins humilier. Le Seigneur ne sépare pas la pauvreté traditionnelle, marginale et nouvelle. Et ses dernières paroles dans cette lettre, c'était « Tous les pauvres souffrent, et il nous a donné mission de les libérer de toute détresse. » Que 1985 soit la chance des pauvres, le signé Père Joseph. Parce que son nom de famille, Rezinski, est tellement compliqué, c'est W-R-E, Ré, et Zinski, S-I-N-S-K-I, Rezinski. J'ai ici en main un ouvrage écrit par une dame de Gaulle. Le père Joseph Rezinski, témoin des plus pauvres de tous les temps. C'est un ouvrage extrêmement intéressant, passionnant, où on nous dit qu'il ne fait jamais bon de naître de parents pauvres et étrangers, surtout en pleine guerre. C'est ce qui est arrivé à Joseph Rezinski le 12 février 1917 à Angers, en France. Sa mère, espagnole, son père, polonais, de la malchance d'avoir un passeport allemand, imaginé. En 1917, en pleine guerre. Alors, au temps où son père, Vladislav, avait émigré vers l'Ouest, comme des milliers de ses compatriotes polonais, bien Potsdam, sa ville natale, était annexée par la Prusse, l'Allemagne. À Madrid, il avait rencontré sa femme, espagnole, Lucrecia Sellas, une institutrice, puis les Rezinski et leur premier fils Louis avaient pris le chemin de la France au mauvais moment. La Première Guerre mondiale avait éclaté en 1914. Tandis que les Français partaient pour le front, bien, la famille Rezinski a été enfermée, à cause du passeport allemand évidemment, dans l'ancien grand séminaire d'Angers. Dans l'ancien grand séminaire d'Angers, qui servait de centre d'internement. Et là, leur deuxième enfant mourra d'une pneumonie et Madame Rezinski attendra une troisième naissance, celle de Joseph, le futur père Joseph, qui naît dans un grand séminaire. La fin des hostilités, est-ce qu'elle va enfin permettre à la famille de vivre plus tranquillement? Bien au contraire. Les Rezinski trouvent refuge dans une forge désaffectée, dans un quartier populaire, situé à la limite de la ville d'Angers. Monsieur Rezinski a un diplôme polonais d'ingénieur mécanicien, mais ça n'ouvre aucun emploi à ce pauvre travailleur immigré, surtout soupçonné d'être allemand, et il est bien forcé de s'éloigner de son foyer pour réussir à envoyer aussi un peu d'argent. Il n'a qu'un rêve, retourner dans sa Pologne. Sa femme refuse de s'aventurer en Pologne avec les enfants, parce qu'elle n'ose pas abandonner la petite sécurité très fragile qu'elle a déjà acquise, et bientôt elle ne reçoit plus aucune nouvelle de son mari. Madame Rezinski reste donc seule, avec ses quatre enfants, imaginez, dans l'extrême pauvreté, vraiment seule, sans parents ni amis pour qui s'appuyer. Pensez à tous ces immigrants parmi nous qui sont dans la même situation. Et elle fait des ménages chez les uns et les autres. Autant dire que Madame Rezinski ne gagnera jamais assez pour déménager. Et que les enfants, bien, ils vont devoir se débrouiller pour la survie de la famille. Alors qu'est-ce que fait Joseph? Qui n'a pas encore 5 ans. Il a 4 ans. Alors il fait paître la chèvre familiale, quoi, le long des routes. Je me souviens d'avoir déjà vu ça, des gitans qui faisaient ça en Europe. Puis de bon matin, il sert la messe chez les religieuses du bon pasteur en échange de 40 sous par semaine, ou 40 centimes, et d'un petit déjeuner. Alors, son déjeuner, c'est pas grand-chose. Et tous les jours à midi, il retourne chercher une gamelle de soupe ou de pois cassés pour le repas du jour. Il fait les courses aussi de la bouchère, la femme du boucher, quoi, ou la bouchère. Elle le paie avec quelques morceaux de viande qu'il doit rapporter si sa mère ne les juge pas assez tendres, parce que Madame Rezinski apprenait comme ça à ses enfants, qui souvent en avaient honte, à réclamer ce à quoi ils avaient droit. Puisqu'il avait fait les commissions, il avait droit à un bon morceau de viande. Pas n'importe quoi. Et le soir et les jours de congé, mais la mère et les enfants confectionnaient à domicile des sachets de papier à cigarettes, livrés ensuite à la fabrique locale. Et quant aux morceaux de charbon pour allumer la cuisinière, mais la famille les cherche parmi les déchets de l'usine à gaz. Et là, à l'école, les enfants Rezinski sont surtout nommés les Kiki, histoire de se moquer de leur nom imprononçable. Il y a alors seulement 40 000 familles de Polonais en France. Mais leur mère s'est toujours montrée intraitable sur un point, le respect de leur dignité. Et ses enfants ont de qui tenir. À l'école et dans les rues du quartier, Joseph n'hésite pas à se servir de ses poings. Il se fait ainsi respecter. Ou bien, il vole au secours des plus faibles. Il y met tant de vigueur qu'une fois, il s'est fait renvoyer de la classe pour avoir défendu un écolier contre un autre tellement plus fort. C'est un combat dont il dira des années plus tard qu'il a été un tournant dans sa vie. « C'est en luttant parmi les plus pauvres, disait-il, et en donnant priorité à leur regard qu'un jour je me suis réveillé d'église, tellement d'église que je pensais qu'il fallait que je sois prêtre. » Alors, dans les années 30, la plupart des enfants sont mis au travail dès la fin de l'école primaire, et Joseph entre en apprentissage chez un pâtissier qui vient d'ouvrir boutique dans la rue. Et 2 ans après, le jeune apprenti quitte Angers et les siens pour aller à quelques 90 kilomètres se perfectionner à Nantes. Et là, il voit dans la ville l'injustice autour de lui. Puis ça, il peut pas l'accepter. Et en fréquentant les jeunesses communistes, il apprend la nécessité de se former pour lutter. C'est drôle, hein? Ça vient par cet évangile tronqué qu'est le communisme. Et entraîné par un copain à une réunion de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, il est aussitôt chargé de faire le compte-rendu, le secrétaire, quoi. Il s'en étonne. Il n'a jamais fait ça avant. Mais il retient pour toujours cette espèce d'étrange manière de faire confiance aux nouveaux venus. Alors il devient militant jociste et ce mouvement qui avait été fondé en Belgique en 1925, pas longtemps plus tôt, mais la JOC avait vite pris son essor en France, hein. En même temps qu'elle avait suscité d'autres mouvements de jeunes, des agriculteurs, des étudiants, leur méthode de formation, qui va marquer des générations d'hommes et de femmes partout dans le monde, tient en 3 mots. On se souvient de ça, les plus vieux. Voir, juger, agir. Alors, à Nantes, le groupe de la JOC enquête sur la tuberculose qui sévissait gravement dans les milieux ouvriers démunis. Alors, Joseph Rezinski découvre ainsi ses racines et son chemin. Et avec ces jeunes ouvriers qui osent être chrétiens dans un milieu indifférent, voire hostile à la religion, y retrouve Dieu et la prière, celle de sa mère. Au moment où il aurait pu s'installer dans son métier de pâtissier qui lui plaisait assez, il décide de tout laisser. Il veut devenir prêtre afin de rendre les pauvres à l'Église et l'Église aux pauvres, comme il le dit. Alors les parents d'une religieuse du bon pasteur d'Angers, où il servait la messe, vont payer ses études. D'une dure formation. Avant d'étudier la philosophie et la théologie, mais il faut apprendre le latin, puis il faut compléter son bagage scolaire qui est pas très bon. Et non seulement il doit se remettre à l'étude, mais il le fait en compagnie d'élèves bien plus jeunes que lui. Et en sachant que le service militaire interrompra bientôt sa scolarité aussi, hein? Alors en octobre 1937, là, 2 ans avant la guerre, il rejoint l'armée. Il y est encore d'ailleurs, au commencement de la Seconde Guerre mondiale. Et au front, il est fait prisonnier par les Allemands, mais il s'évade. Puis il regagne son séminaire. Puis là, la guerre bouscule tout, pour tout le monde. Et Joseph affronte les études de philosophie, puis de théologie, sans avoir fini ses études secondaires, imaginez, mais avec un formidable appétit d'apprendre, par tous les moyens. Alors, on connaît ses livres annotés au crayon. Les temps libres sont transformés en stages de travail dans des usines, dans des mines, de préférence avec les plus méprisés. Et il y a des cahiers de bord où il note les faits saillants de la journée. Puis il est ordonné prêtre en juin 1946. Dans la France de l'après-guerre, on ne songe qu'à la reconstruction, évidemment, du pays. Il y a tellement de choses détruites. Puis il y a un vent de renouveau qui souffle sur l'Église catholique, hein, qui a suscité tellement de gens merveilleux. Alors il est nommé vicaire dans une petite ville ouvrière. Puis il crée un groupe de JOC, puis il y a là une cité de cheminots. Vous savez, les gens qui travaillent à bord des trains, qui s'occupent des trains. Alors au moment où ceux-ci vont participer à une grande grève nationale, le jeune vicaire va pas les abandonner, non, non. Il s'inquiète de plus en plus des travailleurs les plus pauvres, qui ne sont pas pris en compte dans ces luttes. Eux et leur famille ne semblent exister pour personne, mais pour Joseph Rezinski, il n'est pas possible d'aller jusqu'au bout de la rencontre des hommes sans atteindre les plus abandonnés, et il va y consacrer sa vie. Alors nous revenons au père Joseph Rezinski qui part en Italie en 1950. Ah, j'y étais moi aussi en Italie en 1950, c'était à l'occasion de l'année sainte, et des milliers de pèlerins affluent de tout pays vers Rome. Ah, c'était magnifique, c'est beau avoir une année sainte à Rome. Mais ce pèlerin-là, il n'était pas comme moi. Il arpentait les bidonvilles romains, les quartiers de Todi. Et pendant plusieurs mois, il va chercher à connaître leurs habitants, à comprendre leur vie, à communier à leur joie et à leur peine. Cette recherche va le conduire jusqu'aux mines de sel en Sicile. Et après ce voyage, bien, il va se retremper à Assise. Assise, c'est fait pour la prière, comme il dit. Et dès lors, partout où il ira à travers le monde, il voudra voir les lieux cachés de la misère humaine. Mais il voudra voir aussi, comme j'ai cherché à voir, les hauts lieux de la prière des hommes. Comme il le dit. Et revenu en France, voilà Joseph Rezinski nommé curé de campagne. C'est la découverte du monde paysan, où les gens agissent posément, puis les gens savent patienter. L'église qu'on lui donne, elle est pleine de poussière. Elle est fréquentée seulement par deux familles. J'ai vu ça en France dans les campagnes. Nous étions à la messe le dimanche, 8, 9 personnes, c'est tout. Et le prêtre, avec un dévouement, prêchait comme si nous avions été 600 personnes. Des prêtres de feu qu'on retrouve dans ces campagnes françaises, c'est bouleversant. Alors c'en était un. Loin de consolider sa santé à l'air pur là, de la campagne, il n'a pas cessé de travailler, le père Joseph. Dans ce village, il rejoint les ouvriers saisonniers, vous savez, qui viennent pour l'arrachage, mettons, des betteraves, sans autre outil que leurs mains. Puis, il le fait lui-même. Il n'a que ses mains. Il le fait avec eux. Et en dehors de ses livres, qu'est-ce qu'il possède? Rien, pas même une assiette. Mais il commence à restaurer l'église, seul, à temps perdu. Et les gens viennent voir. Et puis, il s'étonne. Quelques-uns lui offrent leur service et peu à peu, il convainc des jeunes de trois villages de travailler à la rénovation de l'église, de cet édifice. Alors il charrie avec eux des brouettes de gravats. Puis il invite son frère aîné, qui est sculpteur sur bois, qui a appris ce métier-là, ou cet art-là, à venir restaurer une statue ancienne. Parce que souvent on trouve dans ces vieilles églises de belles vieilles statues, on les trouvait dans le temps maintenant, elles sont souvent volées malheureusement. Et l'église retrouve sa beauté, et la paroisse sa vitalité. Et son curé est vite chargé d'autres villages alentour par l'évêque de Soissons, qui a connu Joseph enfant à Angers. Et il sait donc que dans ce village où il est curé, il y a un homme là. Ah, ce curé de campagne, qui reste hanté par la richesse des plus exclus. Et l'évêque pense donc à lui, tout naturellement, lorsqu'il apprend qu'un prêtre est demandé pour des sans-abri regroupés dans un camp de la banlieue de Paris, un camp ouvert par le gouvernement à la suite de l'appel lancé par l'abbé Pierre durant le fameux hiver 1954. Et l'évêque lui propose d'aller voir. À l'est de Paris, là où s'arrête la route, où s'arrête l'électricité, où s'arrête l'eau, mais c'est l'enfer qui commence. Et l'abbé Rezinski y entre pour la première fois le 14 juillet 1956, c'est le grand tournant de sa vie. Au plus profond de lui-même, jamais il ne sortira de ce monde. Et 252 familles sont parquées là, dans un ancien dépotoir, en bordure d'un marécage, d'un marais si vous préférez, dans des baraques en fibro-ciment. Imaginez qu'il n'y a que 5 fontaines ou 5 abreuvoirs, comme on dit souvent ici, pour 2000 personnes. Un dénuement inimaginable. Au point que cet homme de 39 ans, ce prêtre, qui en a pourtant beaucoup vu, peut à peine en croire ses yeux, et là il reconnaît les siens. Les siens, ce sont ses hommes, ses femmes, ses enfants, qui sont tous de la même famille que lui. C'est son peuple. Et 4 mois plus tard, les gens le voient s'installer au milieu d'eux, et pour eux aussi, la rencontre sera bouleversante. Ils sont d'abord intrigués par ce curieux curé, n'est-ce pas, sans le sou, qui loge comme eux dans une espèce de baraque aussi glaciale l'hiver qu'elle est torride l'été. Il ne distribue pas d'aumône. Il ne cherche pas à les recruter pour sa religion. Alors que vient-il faire parmi eux? S'il connaissait la promesse qu'il s'est faite, il lui rirait au nez. Cette promesse, la voici. Ces familles si pauvres et humiliées, il leur fera gravir les marches de l'Élysée. Qu'est-ce que c'est l'Élysée? Vous le savez tous, j'espère, l'habitation officielle du président de la République française. Hein? Alors il va leur faire gravir aussi les marches de l'Organisation des Nations Unies, puis du Vatican même, afin que ces familles pauvres, humiliées, soient présentes là où les hommes décident de l'avenir. Et comme beaucoup de rêves vraiment fous, mais celui-ci va se réaliser. Et Joseph Rezinski est seul. Il parcourt à grande enjambée les trous de ce camp où il habite, en banlieue de Paris. Et sans cesse, bien, il est présent aux familles dans leurs malheurs, dans leurs peines, dans leurs angoisses, dans leur honte, leur violence même. Est-ce qu'il est à bout d'espoir devant tout ça? Ah! Non. C'est lui qui serre dans ses bras ceux qui sont à bout d'espoir. Il serre les enfants silencieux. Il caresse leur tête, il les embrasse. Et les femmes qui pleurent, mais il leur tient la main longuement. Il fouille la poche de sa soutane râpée, car il portait la soutane à cette époque, les prêtres, pour répondre au petit billet froissé qu'un bambin lui montre. « Je n'ai rien donné à manger aux enfants. » C'était écrit sur les petits billets. Parfois, il a un petit peu de monnaie, mais souvent sa poche est vide. Et pour toute richesse, il a son expérience d'enfant ayant grandi dans la misère et le souvenir du courage de sa mère. Alors les parents, qui l'écoutent comme personne ne les avait jamais écoutés, lui révèlent leur désir premier, être reconnus comme de bons pères et de bonnes mères. Il les convaincra, peu à peu, de l'incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette vérité incroyable? C'est qu'ils sont capables d'améliorer eux-mêmes le sort de leurs enfants. Alors ils leur soumettent diverses propositions. Ensemble, bien, ils assèchent le marécage afin que les nouveau-nés ne meurent plus de froid en hiver et de déshydratation en été. Ils installent une isolation thermique dans les baraques, qu'on surnomme des igloos, à cause de leur forme arrondie. Et très vite, le père Joseph Rezinski propose la construction d'un jardin d'enfants, alors que les habitants puissent trouver en eux-mêmes les forces nécessaires, qu'ils puissent se rassembler autour d'un projet puis le réussir. Voilà un langage qui est tout à fait nouveau pour eux. C'est si nouveau qu'il fait peur à certains d'entre eux et même à d'autres. Et quand on a perdu tout espoir, à quoi bon entreprendre et pourquoi changerait-on ses habitudes, hein? Quand on n'a jamais pu vivre autrement qu'au jour le jour, est-ce que les distributions gratuites de vêtements, de soupe et de lait ne sont pas plus sûres que les idées farfelues de ce curé? N'avoir foi ni en soi ni dans les autres, c'est aussi l'enfer, ça. C'est l'enfer de la misère. Et le père Joseph, qui est volontairement entré dans cet enfer, affronte une solitude immense. Il sait que personne ne peut résister seul à une vie intenable. Alors, il poursuit un échange de correspondance avec des femmes et des hommes qui, à travers le monde, se sont engagés seuls, et souvent sans grand soutien, hein, aux côtés des plus pauvres. Il y en a d'autres. Alors, plus tard, ce courrier va devenir une lettre de liaison permanente. Hein. J'en reçois une qui s'appelle « Feuille de route Carmonde ». Et la confiance et la ténacité du père Joseph l'emportent. Il faut s'unir contre la misère. Et dès 1957, il fonde une association avec les familles dont il partage la vie dans cet abominable camp si mal vu. Au dehors, certains protestent qu'un prêtre ne devrait pas habiter là. Qu'est-ce qu'un prêtre fait dans un ancien dépotoir, hein? Mon Dieu, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Alors renoncer? Il n'en est pas question. Quelques amis du père Joseph acceptent d'appuyer l'association, que l'un d'eux souhaite appeler « Aide à toute détresse », ATD. Elle deviendra le mouvement international ATD Carmonde, qui existe aussi à Montréal. Alors vient le temps de l'abolition de cette sorte d'esclavage que sont les distributions gratuites de nourriture et de vêtements. Plus de soupe populaire, un jardin d'enfants l'a remplacé. Et tout jeune, Joseph avait appris, lui, de sa mère, que l'instruction est la clé pour sortir de la misère. Plus de distribution de vêtements, donc. Et puis, alors il y a des magasins à prix très réduits. Et mieux encore, les habitants seront nombreux à reconstruire le jardin d'enfants après un incendie, volontairement allumé d'ailleurs par quelques-uns d'entre eux encore prisonniers de la peur du changement. Et ceux-là ne sont pas seuls à craindre ce diable d'homme hors du camp. Personne ou presque ne comprend cet abbé Joseph, inconnu, qui se bat pour que les enfants aillent à l'école du quartier, qui réclame des logements décents, qui soutient les familles déchirées par le placement des enfants et qui défend leur honneur en même temps que leurs droits. Le seul droit qu'on lui concède alors finalement, c'est de bâtir une chapelle dans le camp. Imaginez. Sans ce volontariat, dit-il, né de la misère du camp, rien n'eût été fait. Que pouvons-nous, les familles et moi-même, si des hommes et des femmes voulant comme nous détruire la misère ne se portaient pas à nos côtés? Il est animé par l'Évangile. S'il a commencé seul, n'est-ce pas, à bousculer les familles du camp, le père Joseph refuse obstinément de les laisser seuls avec lui à se battre pour leurs droits. Alors il cherche des gens, et beaucoup de gens se présentent, en particulier des jeunes. Avec tous ces gens, en 1960, le volontariat international d'ATD Quart-Monde est né. Ils sont peu nombreux au début. Et jour après jour, le père Joseph prend le temps de parler à tous ces jeunes. Il leur partage sa foi d'homme et de prêtre. Il leur dit qu'aimer, c'est vouloir l'autre plus grand que soi-même, et donc vouloir recevoir de lui. Comme c'est vrai. Je sais que j'ai reçu 100 et 1000 et 10 000 fois plus de mon pauvre fils qui ne savait presque ni lire ni écrire que je ne lui ai donné, bien que je lui ai tout donné. Je sais, c'est comme ça l'Évangile. Alors il les conduit à découvrir qu'on ne peut rejoindre l'humanité tout entière qu'en mettant l'homme le plus pauvre au centre de sa vie. Quand on le prend et qu'on en fait son fils ou son ami le plus cher, c'est là que tout change. Je le sais, je l'expérimente. Ce qu'il apprend sans cesse des familles, il le leur transmet. Et les volontaires apprennent à faire de même avec le père Rezinski. Chaque réalisation marque le point de départ de la conquête d'un droit refusé aux familles très pauvres. Travail et formation professionnelle, instruction, culture, santé, vacances, vie familiale, vie associative, vie spirituelle. Il disait, l'idée d'obliger la société à prendre ses responsabilités ne m'a plus quitté depuis ce soir-là. Alors, vivant comme les familles du camp, dans le dénuement le plus total, le père Joseph n'a rien à leur donner, au point qu'elles iront de ce curé aussi démuni qu'elles, et qu'elles riront de lui. Un soir, une mère seule avec 5 enfants échoue au milieu des igloos, comme on disait, des bâtiments ronds, là. En voyant le visage de cette femme, il comprend sa désespérance et il se demande ce que refait sa pauvre mère en pareille situation. Elle serait allée à la mairie avec ses enfants et aurait occupé les lieux jusqu'à obtenir un logement. Mais ce soir-là est née l'idée d'obliger la société à accueillir les plus pauvres et donc à prendre toutes ses responsabilités. Elle inspirera toute son action. Et cela l'oblige, lui, d'une part, à faire connaître ses familles ignorées ou méconnues, et d'autre part, à chercher comment elles sont considérées en d'autres pays. Et malgré des moyens dérisoires, mais là, il ose convoquer des chercheurs, puis des gens d'action, des colloques, qui se tiennent ou au siège de l'UNESCO à Paris, en 1961 puis en 1964. Et de ces rencontres vont naître d'autres rencontres, des séminaires permanents de recherche. Et les plus pauvres en appellent désormais à l'intelligence, puis à la science des chercheurs. Il les fait comparaître, il les fait venir, il les fait parler. Les scientifiques sont invités à en appeler donc à l'intelligence, puis à la science des plus pauvres. Ils les écoutent et les uns et les autres ont à apprendre mutuellement ce qu'ils savent. Reconnaître, en fait, à tout être humain sa dignité, son droit de vivre en famille et de participer à la libération de l'humanité tout entière. Est-ce que c'est pas vers un approfondissement des droits de l'homme que les familles les plus démunies ont conduit ce volontariat puis le père Joseph? Les droits de l'homme, mais les droits de l'homme créés à l'image de Dieu. Les droits de l'homme que Dieu chérit. et arrive le temps où les familles sont prêtes à rendre public leur combat commun. Avec les volontaires, en diverses villes de France, elles remplissent leur cahier de, comme on dit, de doléances. Et à partir de leurs témoignages, il y a un manifeste qui est publié. C'est bien intitulé « Un peuple parle ». Et à ce peuple, le père Joseph donne identité et histoire avec un nom, Quart-Monde. Quart-Monde. C'est la suite du tiers-monde. Plus pauvre que le tiers-monde. Et ce premier manifeste est publié en 1968. L'année où, vous vous souvenez, à la suite des étudiants, là, une contestation de la société qui envahit bon nombre de pays industrialisés, on en a eu même des répercussions ici, qui continuent d'ailleurs. Mais qui va jusqu'à contester la violence faite aux plus pauvres des citoyens? On les oublie si facilement. Et à Paris, dans l'effervescence de ce mois de mai 1968, qui a été extraordinaire, je vous ai déjà dit, je suis arrivé au mois de juin suivant, au début de juin, c'était quelque chose d'épouvantable. Bien, un homme passe des journées, des nuits entières en milieu des étudiants. Et cet homme, c'est le père Joseph, qui les écoute si bien qu'il les prend au mot. Alors, ils rêvent de justice, ces étudiants, ils rêvent de liberté, de fraternité, de démocratie. Alors, il les encourage à aller jusqu'au bout de leurs rêves, mais d'une façon réaliste. Qu'ils viennent donc dans les quartiers de grande pauvreté partager ce qu'ils ont appris avec les enfants, les jeunes, les adultes qui n'ont pas pu apprendre à l'école, et qu'ils apprennent donc d'eux ce que nul ne leur a enseigné. Alors, ce qu'on appelle le savoir dans la rue est né. Ça me rappelle cette œuvre de ce prêtre de Montréal que j'ai bien connu quand il était séminariste, le père John, le bon Dieu dans la rue. C'est là qu'on apprend où est Dieu. Le savoir dans la rue est né donc, une vraie révolution culturelle. Et le père Joseph appelle l'université à sortir de son ghetto. Un appel qu'il va reprendre quelques années plus tard, lors d'une conférence donnée au grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. J'y suis déjà allé à des conférences là. C'est immense et c'est très impressionnant. Rassembler les familles du quart-monde, ça ne suffit pas. Il leur faut oser, elles aussi, sortir du ghetto de la misère, puis parler en public, puis interpeller la société. Et là encore, bien, le fondateur du mouvement innove. Il a l'audace de réunir en congrès ouvert à tous, y compris aux journalistes, les plus pauvres des Européens, puis de tous les continents un peu plus tard. Ça devient une œuvre catholique universelle. Catholique universelle. Il choisit d'organiser ses congrès au rythme de l'actualité mondiale. Mais ce mouvement est ouvert à toutes les religions, et même aux incroyants, même aux athées. Ainsi, le quart-monde fait-il entendre sa voix lors des années internationales de la femme en 1975, l'année internationale de la famille en 1976, celle de l'enfant en 1979, de la jeunesse en 1985, et chaque fois, cette voix convainc de nouveaux amis. Il y disait, « Le père Joseph, j'étais un jeune homme plutôt violent, mais voilà un homme de consensus. » Je n'avais pas le choix. Les plus pauvres sont abreuvés de violence. Ils rêvent de paix. Et ils savent mieux que quiconque qu'ils n'ont pour toute arme que leur souffrance. Alors que devenaient les groupes les plus pauvres dans la misère massive des pays en voie de développement? La question, elle hante le père Joseph. Elle l'avait conduit en Algérie à Aïn Baïda pour remplacer quelque temps un prêtre qui était à bout de force. C'était en 61, ça. 4 ans plus tard, voilà en Inde, en 1978, des milliers de Cambodgiens fuient leur pays. Vous vous souvenez, pour se réfugier en Thaïlande, où ils sont accueillis dans d'immenses camps. Et à Montréal, on a accueilli beaucoup de ces gens. L'opinion publique est bouleversée. Les familles du quart-monde aussi. Elles disent, partout où il y a de la misère, le quart-monde devrait être présent. Et le père Joseph propose à 2 volontaires de partir pour ces camps. Et leur mission, c'est de découvrir parmi les réfugiés ceux qui seront laissés pour compte une fois la vague de solidarité internationale passée. Je me souviens de mon frère Jules et sa femme qui se sont occupés comme ça de familles asiatiques, particulièrement de Thaïlande, des Vietnamiens, pour les installer, leur apprendre à faire leurs achats et tout, installer le téléphone et tout, s'en sont occupés pendant des années. que d'autres ont fait la même chose. Et au même moment, une organisation humanitaire du continent américain demande du renfort pour son équipe au Guatemala. Et un couple de volontaires accepte cette aventure. Alors le volontariat doit repartir les mains nues. Et le mouvement grandit. Il s'est diversifié aussi. Puis il y a une branche enfance qui s'est développée. Le père Joseph est de plus en plus sollicité. Cet homme à la santé compromise par son enfance pauvre semble infatigable. Il est débordant d'énergie, de joie et de vitalité. Il parcourt le monde pour soutenir les volontaires. Il leur apporte son rire, son rire, sa tendresse exigeante et son attention à comprendre le pays où ils sont engagés. Puis avec eux, bien, il rencontre les familles les plus pauvres toujours. De telle façon qu'elle et lui en gardent une marque ineffaçable. Oh, il avait un don qui ne peut venir que du cœur de Jésus. Il s'entretient avec des ministres, des hauts fonctionnaires, des institutions internationales comme l'ONU, le BIT, l'UNESCO, l'UNICEF, la Communauté européenne, le Conseil de l'Europe, des évêques aussi, ou des chefs d'autres religions, des patrons, des syndicalistes, des militants de toutes sortes, des journalistes. Rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Cet homme qui puise sa passion de l'humanité dans son attachement à Jésus-Christ, c'est un prêtre, un vrai prêtre, un grand prêtre, je dirais. Et le père Joseph en est convaincu, lui, que c'est Jésus-Christ qui l'anime. Aucun être humain n'est indifférent à la misère dans son cœur. Depuis le camp de Noisy-le-Grand, là, en banlieue de Paris, il n'a cessé de fonder l'action du mouvement sur cette foi inébranlable en tout homme, du plus défavorisé au plus riche. Nommé au Conseil économique et social français en 1979, le père Joseph devient un conseiller assidu. Par la section des affaires sociales où il siège, il entraîne les conseillers à découvrir quoi? La situation puis les aspirations des familles en grande pauvreté, puis leur droit à vivre en famille comme toutes les autres. Il disait d'ailleurs, le père Joseph, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Sacré, hein? C'est bien le mot qu'il faut utiliser, sacré. En s'astreignant à ce travail patient, il invite ses interlocuteurs à se préoccuper de l'avenir des citoyens les plus pauvres et donc de démocratie. Et comme au camp de Noisy-le-Grand, là, mais il oblige la société à prendre ses responsabilités maintenant. C'est à la société de la prendre aussi, pas rien que les pauvres, mais tout le monde. Comme au temps du camp aussi, le père Joseph est humilié, hein. C'est sûr, les gens n'osent plus nier les conditions de vie intolérables faites à des milliers de familles. Mais les gens refusent souvent encore de croire en ces familles. On dit qu'ils peuvent rien faire. C'est de leur faute s'ils sont pauvres. Allez donc. Allez donc. Et finalement, pour le père Joseph, l'urgence dépasse les frontières. En cette dernière année de sa vie, 1988, il va user ses dernières forces à obtenir l'application d'un rapport très important sur tout le problème en France. Il est reçu par le président de la République, par le premier ministre, par les ministres, en et nombre de personnalités qui lui affirment leur accord. Alors, à ses yeux, la France doit entraîner toute la communauté européenne, avant 1993, année de la grande ouverture de l'Europe. Et un tel changement serait une chance pour le monde entier. Il dit, les plus pauvres nous attendent au tournant, qu'allons-nous faire? Eh bien, le père Joseph a réussi à faire reconnaître officiellement la misère comme une violation des droits de l'homme. Sans le soutien de l'opinion publique, un gouvernement ne peut guère commencer et poursuivre une politique contre la grande pauvreté. Et c'est ce que font les membres d'ATD Quart-Monde, c'est de soulever la population pour que le gouvernement bouge. La participation des citoyens en grande pauvreté, c'est la première condition de cette politique de lutte. Qu'il lutte pacifiquement avec l'esprit de l'Évangile. Mais comment pourraient-ils apporter leur pierre à l'avancée des droits de l'homme quand les autres ne les regardent ni comme des citoyens, ni même parfois comme des personnes humaines? Alors le 17 octobre, 87, au Trocadéro, à Paris, vous connaissez ça, le Trocadéro, près de 100 000 personnes vont participer à un rassemblement international des défenseurs des droits de l'homme, organisé à l'occasion du 30e anniversaire du mouvement. Comme quoi, ça fait 40 ans que ce mouvement existe. Et autour des premiers défenseurs des droits de l'homme, les familles les plus pauvres du monde entier, puis avec eux, sont réunis non seulement des simples citoyens, mais écoutez ça, les personnalités internationales et nationales les plus diverses. 200 d'entre elles ont tenu à participer personnellement à cette cérémonie. Et d'autres, tels M. Pérez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU, ont voulu marquer leur soutien au Père Joseph en lui adressant des télégrammes ou des lettres qui n'étaient pas des mots de circonstance. Et l'avenir le montrera, et sur l'esplanade, une dalle sera dévoilée. En 1987, le 17 octobre, sur l'esplanade du Trocadéro. Et là, on entend la voix du Père Joseph qui s'élève une fois de plus, la dernière fois, pour affirmer la souffrance, le courage et l'espoir de ce peuple des très pauvres qui traverse les siècles et les frontières, son peuple, auquel il a donné le nom de Carmonde. Et il dit à cette occasion des choses extraordinaires, et rarement pareil silence a uni une foule. Mais les plus abandonnés n'ont jamais rien gagné, tant que d'autres hommes ne s'engagent pas vraiment à leur côté. Le 22 décembre 1992, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution instituant ce 17 octobre, 4 ans après la mort du Père, comme journée international a célébré dès 1993 par les Nations Unies et tous les pays membres. Alors le 14 février 1988, c'est l'anniversaire aujourd'hui, à Suresnes, en banlieue parisienne, le Père Joseph rejoint le bon Dieu, son Dieu, qu'il aime, qu'il a passionnément aimé et qu'il a passionnément suivi. Il ne s'est pas contenté de l'aimer, il l'a suivi. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. L'opération cardiaque qui devait le sauver avait échoué. Et comme il l'avait pressenti avec sa lucidité coutumière, il savait qu'il allait mourir. Et sur son lit d'hôpital, il aura encore trouvé la force de dicter sa dernière lettre à ceux qui appelaient sa famille les volontaires. Il formait sa famille. Et son dernier mot, c'est « J'ai confiance ». Ça rappelle les premiers mots du pape Jean-Paul II. « N'ayez pas peur. J'ai confiance. » Lui, ce sont ses derniers mots. Les obsèques ont lieu où? À la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est immense. 4 mois auparavant, le 17 octobre 1987, il avait eu l'immense joie d'y concélébrer la messe avec le cardinal archevêque de Paris et nombre d'évêques et de prêtres. Et en ce 18 février... jour de ses funérailles, ses amis sont si nombreux que la cathédrale Notre-Dame de Paris déborde, pauvres ou riches, célèbres ou anonymes, chrétiens ou non, tous accompagnent celui qui est resté l'enfant pauvre de la ville d'Angers. Ce jour-là, toute l'Église adresse un hommage plein de chaleur à ce prêtre qui l'a aimé, son Église, qui a servi son Église catholique de toute son inlassable énergie. Ce jour-là, chacun découvre que les plus pauvres, les premiers, avaient compris le fondateur de leur mouvement. En ayant dit très tôt, il nous a rendu l'honneur. En voulant rendre à l'homme le plus défiguré par la misère, les moyens d'agir pour son propre bien et celui des autres, comme il le dit, c'est à tous les hommes que le Père Joseph a voulu rendre leur honneur, en les appelant à détruire la pauvreté qui défigure toute l'humanité, l'humanité qui est créée à l'image de Dieu. Dieu est présent dans chaque homme. Sa présence est là plus qu'ailleurs. Comme le Père Joseph l'avait voulu, son corps est inhumé au pied de la chapelle oratoire qu'il avait fait construire sur les lieux du Centre international du mouvement à Méry-sur-Oise. 116 des familles du Carmonde viennent avec leurs enfants autour de la tombe de celui en qui elles reconnaissent l'un des leurs. Elles y reprennent force et confiance. Puis depuis ce temps-là, bien elles le savent, elles ne seront plus jamais seules. Il y a des personnalités de tous bords, des amis qui viennent de partout, ainsi que des volontaires, qui viennent aussi y puiser force et courage. Ah, la voix du père Joseph, c'est peut-être tu, mais sa personne, son message continue de réunir les hommes à travers toutes les frontières. Je vous fais entendre sa voix. Ce qu'il a dit le 17 octobre au Trocadéro, à Paris, quelques mois avant sa mort. Millions et millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de misère et de faim, dont nous sommes les héritiers. Vous qui étiez des vivants, ce n'est pas votre mort que j'évoque aujourd'hui en ce parvis des libertés, des droits de l'homme et du citoyen. C'est de votre vie dont je témoigne. Je témoigne de vous, mère, dont les enfants condamnés à la misère sont de trop en ce monde. Je témoigne de vos enfants tordus par les douleurs de la faim, n'ayant plus de sourire, voulant encore aimer. Je témoigne de ces millions de jeunes qui, sans raison de croire ni d'exister, cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui, happés par les chemins, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis. Travailleurs sans métier, écrasés en tout temps par le labeur, travailleurs dont les mains, en ces jours, ne servent plus à rien. Millions d'hommes, de femmes et d'enfants dont les cœurs à grands coups battent encore pour lutter. Dont l'esprit se révolte contre l'injustice sort, contre l'injuste sort qui leur fut imposé. Dont le courage exige le droit à l'inestimable dignité. Je témoigne de vous, enfants, femmes et hommes, qui ne voulez pas maudire. Mais aimez et priez, travaillez et vous unir pour que naisse une terre solidaire. Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. Ah, je témoigne de vous, hommes, femmes et enfants, dont le renom est désormais gravé par le cœur, la main et l'outil sur le marbre de ce parvis des libertés. Je témoigne de vous, pour que les hommes enfin tiennent raison de l'homme et refusent à jamais de la misère la fatalité. Si vous voulez entrer en communication avec ATD Carmonde à Montréal, ils sont situés au 67-47 rue Drolet. 67-47 rue Drolet. Le numéro de téléphone de ATD Carmonde, ne pas confondre avec aide à l'Église en détresse, ça n'a rien à voir. ATD Carmonde, 279-0468. Je répète, 279-0468. Si vous voulez lire un très beau livre, Commentaire des Évangiles, intitulé « Heureux vous les pauvres » par le père Joseph Rezinski, publié aux éditions Cana. Vous pourrez lire des choses comme « Jésus n'a pas été tué seulement pour s'être proclamé le Messie, ni pour avoir fait œuvre de miséricorde. C'est de s'être totalement identifié à ceux qui étaient objets de rebut et de les avoir choisis pour confidents et messagers qui l'a conduit au Golgotha. Loin de créer seulement un débat théologique, son enseignement et sa vie renverser l'ordre du monde. Beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers seront premiers. Matthieu 19. C'était en quelque sorte chose faite par le seul choix du Christ de ses amis et compagnons. Le royaume agissait déjà en vérité. C'était inacceptable alors et cela le demeure aujourd'hui. C'est le père Joseph qui écrit cela. Cher père Joseph, vous êtes sans doute au ciel, je le crois. Aidez-nous à aimer les plus pauvres. Ouvrez nos cœurs. Changez notre cœur de pierre en cœur de chair. Intercédez auprès de Dieu pour que l'Esprit Saint nous habite et que nous devenions vraiment semblables à Jésus. Et j'oserais dire aussi semblable à vous. Amen.